Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
La deuxième session à l'université est une étape capitale pour un étudiant, car soit il réussit et passe à la promotion supérieure, ou encore il échoue et il est contraint de reprendre l'année académique. Alors comment bien se préparer à passer la deuxième session à l'université? Célestin Dimanja est professeur à l'Université catholique du Congo. Professeur, je pense que les étudiants sont déjà en pleine période des deuxième session dans mon nombre d'établissements d'enseignement supérieur universitaire. Alors comment doit-on bien préparer cette deuxième session, professeur?
Merci bien pour la question, dite. Vous parlez de la deuxième session à l'université. Il vaut mieux rappeler une chose. La deuxième session est proposée ou imposé à ceux et celles des étudiants dont les résultats en première session n'ont pas été jugés suffisants. Jugés suffisants par l'institution, l'établissement au sein duquel ils évoluent.
Les étudiants ajournés
pour passer d'une promotion à une autre.
Les ajournés partiels.
Oui. De là vient la nécessité pour l'étudiant qui est admis en deuxième session de tenir compte d'une double évaluation. Il y a d'abord l'évaluation faite par l'établissement, qui se traduit par la proclamation. Mais le plus important, c'est l'auto-évaluation de l'étudiant lui-même. Il lui est demandé de prendre conscience de ses points faibles et en même temps de ses points forts. Et c'est de là que, à partir d'une telle double conscience, qu'on peut prendre la résolution de réussir. Et pour réussir, il faut, comme vous le dites, bien préparer la deuxième session. Comme ce n'est plus au terme de l'année en cours, c'est pratiquement à la fin de la première session. Le type de préparation qui s'impose ici, ce n'est plus ce qu'on appelle la préparation lointaine qui se fait tout au long de l'année, mais la préparation immédiate. Et une fois qu'on a préparé, il faut apprendre comment présenter effectivement l'examen. Voilà. En gros, c'est ce que je peux dire pour le moment. S'il y a des questions précises, nous allons entrer en détail. Je vous avais prévenu que je serais en ville. Hein. Il y a du bruit de fond.
Il n'y a pas de problème.
Il y a des véhicules qui passent.
Il n'y a pas de problème, professeur. Nous avons un premier intervenant, Trésor Lunganga. Oui. Il nous appelle des Kananga. Bonjour, Trésor.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais poser la question à l'invité. Mais si un étudiant qui a beaucoup de cours à la deuxième session, qu'est-ce qu'il doit faire réellement pour qu'il puisse en réussir aux examens de la deuxième session?
Il se retrouve avec combien de cours, par exemple?
Par exemple, s'il a, il a fait, si c'est 12 cours, dans les 12 cours, il a reçu, il a échoué à 9 cours. Qu'est-ce que l'étudiant doit, quelle est la méthode et la technique que l'étudiant peut faire pour réussir aux examens de la deuxième session?
Voilà, donc il doit reprendre les 9 cours à la deuxième session. Professeur Célestin.
Oui. Quel que soit le nombre de cours, l'étudiant doit tenir compte de l'horaire des examens. Il faut qu'il sache dans quel ordre ces examens doivent être présentés. Et pour se préparer à ce type d'examen un peu colossal, il faut qu'il sache qu'il doit, par exemple, arrêter un horaire spécial, rien que pour cette session-là, l'horaire dans lequel il va inscrire en alternance les périodes d'études et les périodes de détente. Ce n'est pas parce qu'il y a examen qu'il ne faut plus se détendre. Il doit, pendant les heures d'études, chercher à connaître davantage la matière, résumer la matière en quelques pages ou en quelques fiches, Et par la suite, il faut qu'il se souvienne de ce qu'on a, on appelle l'assimilation de la matière. Donc, pendant cette préparation-là, il doit pouvoir structurer la matière, chercher à la comprendre, avant de passer à la mémorisation. C'est une tactique assez bête que de passer directement à la mémorisation quand on ne comprend pas. Et une fois qu'on a compris, il faut, avant même de passer l'examen, il faut que l'étudiant développe en lui une attitude dite interrogative, que lui-même commence à se poser des questions. S'il n'y arrive pas, il peut se servir des questionnaires qui ont été faits, qui ont été donnés par le professeur beaucoup plus tôt, dans d'autres sessions. Il y a de ces professeurs qui reprennent dans chaque syllabus les types d'évaluations qui ont eu lieu auparavant. C'est une indication. Cela ne veut pas dire que ce sont les mêmes questions qui vont revenir. Mmh. Mais c'est bien de pouvoir se laisser pénétrer par la manière dont le professeur interroge. Je crois que si l'on procède de cette manière-là, on peut être à même de présenter correctement son examen.
Est-ce que on prépare de la même manière un examen à l'oral et un examen à l'écrit?
La préparation est la même. La préparation est la même, mais les attitudes à observer pendant ce type d'examen sont différentes. Pour un examen écrit, par exemple, ou même l'examen oral, il faut commencer par lire attentivement les questions avant de pouvoir répondre. Lire attentivement les questions, cela veut dire faire attention aux directives imposées par l'examinateur. Il faut aussi, je crois que les étudiants ne font pas souvent attention à ça, porter toute son attention sur la répartition des points. Et enfin, il faut faire attention à la particularité de chaque question, parce que chaque question peut comporter des directives différentes. Hein, un examen de type objectif, par exemple, c'est-à-dire là, il faut répondre par oui ou non, ou par 1 ou 0, eh bien, on ne prépare pas les choses de la même manière, et on ne se comporte pas de la même manière. Pour répondre à un examen de type objectif, il faut lire scrupuleusement les directives, mais aussi tenir compte du fait qu'il faut répondre à toutes les questions, sinon vous perdez des points bêtement, en faisant attention évidemment à l'importance qu'on a attachée aux questions. On peut ne pas répondre à toutes les questions si l'examinateur a dit que la réponse négative entraîne la perte de points. Alors là, on peut essayer d'abord de répondre aux questions dont on est sûr avant de faire autre chose. Donc, le plus important, quel que soit le type d'examen, c'est de surveiller les directives données par le professeur et surveiller aussi les mots-clés. Quand on vous dit « est-ce que la plupart du temps on fait ceci », ce n'est pas la même chose que « jamais » ou quelquefois, donc il faut savoir exactement à quel type de questions vous voulez répondre. Bon, ça c'est valable aussi bien pour l'écrit que pour l'oral. Mais il y a des attitudes sur lesquelles on juge les étudiants, oui. Et les étudiants ne sont pas toujours informés. À l'écrit, il est conseillé de lire attentivement les questions et parfois même de les relire. Il est recommandé aussi d'élaborer des plans de réponse sur le brouillon. Ne donnez jamais totalement la réponse dans le brouillon. Vous risquez de réécrire le même texte 2-3 fois alors que le temps est bien compté. Mmh. Il faut donner une réponse structurée. Il ne faut pas vous contenter de reprendre quelques mots au hasard selon un style journalistique ou télégraphique. Il faut des réponses structurées. Cela veut dire que pour chaque réponse, à l'écrit par exemple, il faut qu'on voit une introduction, un petit développement, une conclusion, un peu comme le type des examens dissertation. Alors, de nouveau, enfin, je voudrais ajouter autre chose, quand il s'agit de l'écrit, il faut soigner son écriture. Il y a des étudiants qui préfèrent placer par-ci, par-là, quand on n'est pas sûr de tel accent ou quoi, on met des pattes de mouche.
Des pattes de mouche, oui.
Ah oui, en laissant au professeur le choix de... Et là, il n'a qu'à choisir, est-ce que l'article est bien placé ou pas? Non, ça ne se fait pas. Donc, il faut faire attention à tout cela. Et une fois qu'on croit avoir terminé, il faut procéder à la relecture de vos réponses. Sinon, vous pouvez avoir sauté un mot et vous croyez que la réponse était complète alors que c'était peut-être le mot le plus important. Pour les examens à l'oral, les étudiants doivent savoir que la tenue compte énormément. Il ne faut pas arriver devant le professeur en tenue du panaillé, négligé. Il faut une tenue soignée. Il faut rester calme, donc un maintien calme, mais pas vous agiter pendant que vous répondez. Et surtout, il faut avoir une expression réfléchie et structurée. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Bien, Ogi Bendelo et Takananga, Symphorien Bidouaya, se trouve également dans la même ville. Vous voulez participer? Nous parlons des préparatifs de la deuxième session à l'université. Appelez-nous au 081-890-63-94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Comment bien préparer la deuxième session à l'université? Ogi Bendelo de Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis d'ailleurs, j'ai salué aussi tout de suite en ce moment. J'ai bien compris tout ce que notre invité a dit.
Veuillez vous déplacer un tout petit peu, Ogi, on ne vous entend pas très très bien.
Oui, ça va maintenant, je dis.
Oui, d'accord, allez-y.
Alors, j'étais par rapport à ce que l'invité a dit, parce que des fois, à la deuxième session, vous allez trouver un groupe d'étudiants qui se débat, qui dira que nous manquons l'argent des étudiants. Bon, je ne sais pas, ce public a des soucis, c'est d'où il s'agit depuis quand. Donc, ce que les professeurs eux-mêmes ont habitué les étudiants, ils savent que lorsque l'enfant a des coûts qui doivent à la deuxième session, donc, n'est-ce qu'il donne 5, 10 dollars ou quelque chose comme ça, il va passer. Pourquoi les étudiants sont habitués? C'est pour ça que je voulais poser la question à notre invité. Les systèmes de suivi, donc l'argent des poches pour la suivi. Donc, cette fièvre d'argent des étudiants ou bien ce sont les professeurs qui infilent les étudiants, c'est ce que je voulais avoir des précisions. Et la deuxième question, il y a d'autres groupes qui ne prennent pas les étudiants. Et donc, selon eux, ils savent que s'ils étudient ou pas, mais il va tout de suite passer. Est-ce que les professeurs qui tirent à cette catégorie d'étudiants? C'était la même question que je dis. Bonne suite des problèmes sur les antennes de la fréquence de la paix.
Symphorien Bidouaya de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à tous.
Quelle est votre question?
J'ai un ami ici à Kananga, mais juste avant la période de la première session là, il y avait son père qui est mort à Kinshasa. Il était obligé d'aller assister à l'enterrement de son père. Maintenant, à la deuxième session, il est censé refaire tous les cours. Je voulais demander à l'invité pour qu'il puisse me dire comment cet ami là peut procéder pour réussir à tous ces cours là.
Bien, donc il doit passer tous les examens parce qu'il n'a pas pu passer les examens à la première session. Comment peut-il se préparer? Frédéric Kikuni de Kindu, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Bon, ici chez nous, nous avons observé que ce sont les étudiants démunis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'argent, quand leurs collègues étudient et ils sont en train de chercher de l'argent. Il y a aussi les étudiants parents. Il peut arriver que l'enfant tombe malade, que l'étudiant parent est en train de faire soigner son enfant. Alors, je voudrais avoir des conseils de la part de notre invité, comment ces étudiants peuvent se comporter pour passer un examen dont eux-mêmes n'ont pas participé au cours.
D'accord. Les étudiants parents ou les étudiants commerçants, étudiants hommes d'affaires. Professeur Célestin.
Merci, bien dit. Je commence par le premier intervenant de Kananga. Il a parlé de frais. La question de frais se rapporte au règlement de l'examen. Dans chaque établissement, il y a ce qu'on appelle l'enrôlement. Et je crois que même dans la dernière circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur, on revient là-dessus. Pour chaque session, il y a des frais à payer. C'est ça l'intérêt aussi pour les étudiants de ne pas d'essayer de terminer à temps et au besoin à la première session au lieu d'attendre pour multiplier les frais. Il y a des frais donc qui sont normaux, ce qu'on appelle les frais d'enrôlement. Quand c'est fixé par l'établissement, on ne peut pas s'y dérober. Ces frais servent par exemple à l'achat du papier, à la réunification des instruments pour les corrections, etc. Quand c'est officiel, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit de demandes à côté,
pour autre chose, rien que pour grossir ou enrichir les poches de tel ou tel intervenant, c'est compliqué. Là, c'est autre chose. Et ça, c'est passible de punition par l'établissement. Bon, le deuxième aspect pour le premier intervenant, je ne l'ai pas bien retenu. Peut-être qu'il pourra reprendre tout à l'heure.
Oui, il parle de certains étudiants. Ils savent bien qu'ils doivent passer la deuxième session, mais ils se préparent pas. Ils sont sûrs. De même, ils savent qu'ils vont passer. Ils vont utiliser d'autres moyens pour passer.
Non. Vous savez. Quand nous perdons notre temps à expliquer comment on prépare les examens, je ne pense pas qu'on le fait pour ceux qui sont naturellement paresseux, qui ne veulent pas travailler ou qui veulent compter sur des moyens malhonnêtes. Tout à l'heure, quand je parlais de difficultés à éviter, j'ai oublié de parler de la tricherie. Mais la tricherie n'est pas encouragée à l'université et c'est puni sérieusement. Et on peut assimiler au comportement des tricheurs celui des étudiants qui préfèrent guindailler pendant toute l'année et qui ne comptent que sur le produit de leur commerce parallèle, qui n'est pas une activité académique, hein, pour venir soudoyer les professeurs. Moi, je crois que quand un étudiant se dispose à faire cela, il n'est pas digne de rester à l'université et il vaut mieux pour lui aller s'adonner à d'autres activités. Pourquoi ne pas aller creuser le diamant, parce qu'on devient plus riche en ce moment-là, et plus rapidement. L'autre ami a parlé du décès de l'étudiant dont le parent serait décédé à Kinshasa alors qu'il était à Kananga.
Voilà, il a raté la première session, maintenant il doit revenir faire la session, donc la deuxième session, il doit faire tous les cours, passer les examens pour tous les cours, alors comment s'y préparer?
Mais la préparation est la même, hein. Quand il y a des cas d'exception pour lesquels on peut demander à l'étudiant de remettre ou d'être invité à la deuxième session. Mais cela ne vous donne pas l'autorisation de passer par des comportements indus et malhonnêtes. Ce n'est pas cela. Il faut qu'il se mette au travail comme tout le monde et qu'il puisse se préparer, hein, comme nous l'avons indiqué dans la première partie de notre intervention. Bon, il y a des étudiants, paraît-il, qui préfèrent verser l'argent au lieu d'étudier. Vous comprenez manifestement que ce n'est pas un comportement encouragé. Hein? Ça, franchement, celui qui ne compte que sur l'argent pour sa réussite, pour sa promotion sociale, pour sa promotion académique, il est tout, sauf étudiant. Voilà ce que je peux dire pour le moment.
D'accord. Avant de reprendre à Frédéric, on va accueillir Augustin Mwaku de Kananga et Meminaku et Taïsiro. Augustin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Vraiment, j'ai deux petites questions à poser à mon invité. Je ne sais pas. Bon, moi aussi, je suis aussi étudiant, je prépare la deuxième session. Mais du fait que je constate que les professeurs même ne corrigent pas nos copies, surtout à la deuxième session, nous présentons bien l'examen et vous remettez des copies, vous pouvez avoir la même réponse peut-être que vous avez travaillé avec votre camarade et vous trouvez que le camarade a réussi et vous n'avez pas réussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui fasse que le professeur donne nos copies à d'autres personnes pour corriger à l'extérieur. Je peux être à la voie de la réponse, mais je suis en train d'écrire, je peux dérouter quelque part. Mais lui-même qui avait posé son examen, donc il doit se rendre compte que l'étudiant a même été sur la voie. Mais du fait qu'il ne corrige pas nos copies, vraiment, le type qui va corriger, il n'est pas du domaine. Quand il corrige, donc il est en train de tenir compte de ce que le professeur lui avait donné. Donc, en corrigeant, il ne tient pas compte de ce que l'étudiant est à l'avant ou est à la marche. Voilà, il va faire échouer cet étudiant. Ça, c'est la première question. Le professeur va répondre. Pourquoi il ne corrige pas des copies de cet étudiant surtout à la deuxième session? Ça, c'est la première question.
Deuxième question. Donc, passez à la deuxième question.
Oui, la deuxième question. Quelle est la méthode vraiment que le professeur peut nous donner pour préparer la session unique? Parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas fait la première session. La mi-session, la première session, maintenant il se trouve qu'il est à la deuxième session, donc il fait la session unique. Quelles sont des méthodes qu'on peut employer ou des techniques pour que l'étudiant puisse réussir?
Merci bien. Aimé Minaku, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Bonjour Radio Capi.
On vous écoute?
Oui, j'ai des petites questions. du savoir. Et la première règle du savoir, faut-il s'arrêter avec les études qu'on est d'ailleurs avant qu'ils commencent les examens. Deuxième règle du savoir, faut-il étudier combien d'heures pour bien assimiler la matière? C'est ça la question, merci.
Bien, merci Aimé. Professeur Célestin.
Merci bien, Dite. Je reviens à la première question. On constate que on passe l'examen, le professeur ne corrige pas, et parfois même il y a de la coopération, donc c'est-à-dire la tricherie, ce qui n'est pas conseillé.
Mm-hmm.
Non, je reviens au cas où visiblement le professeur n'a pas assumé ses responsabilités. Là, il faut vous ouvrir à l'autorité académique immédiate. Ça peut être le chef du département, ça peut être le doyen, et peut-être beaucoup plus tard, au premier responsable de l'université. Toutes les instructions académiques exigent que le professeur assume ses responsabilités jusqu'au bout. Il n'y a pas moyen de laisser dire, voilà, pour telle ou telle raison, je ne peux pas. Non, non, ce n'est pas ça. Et souvent, quand ça arrive, parce que ça peut arriver, la faculté ou la section peut demander au professeur, au moment où il dépose le questionnaire, de préparer un corrigé. En cas d'accident, on peut désigner un autre enseignant qui peut se servir des indications du corrigé de titulaire pour faire convenablement son travail. Donc, si le professeur démontre ses limites, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer et le dénoncer correctement et suivant les voies les plus régulières. Je ne dis pas qu'il faut aller ramasser des pierres à gauche et à droite pour jeter sur son véhicule ou sur sa tête.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour préparer une session unique? Ce n'est pas parce que la session est unique que la méthode change. Il faut, dans la préparation, s'imposer un horaire spécial dans lequel vous allez tenir compte de l'horaire des examens dans l'ordre ou dans l'ordre inverse où les examens doivent se dérouler. J'ai souvent conseillé aux étudiants, quand ils lisent l'horaire des examens et qu'ils disposent par exemple de 2 semaines, de commencer par préparer le dernier examen et ainsi de suite jusqu'au dernier, jusqu'au tout premier qu'on va préparer pratiquement à 1 ou 2 jours de l'examen. Là, la matière est encore fraîche. Pour le reste de la session, quand vous revenez à ce que vous avez déjà préparé, ça devient une sorte de répétition. Et ça vous facilite et la structuration et la compréhension et l'élaboration de réponses, comme nous l'avons dit tout à l'heure.
Mmh.
Donc, la méthode est la même. Ce n'est pas parce que la session est unique qu'il faut penser qu'il y a d'autres méthodes à utiliser.
D'accord. Alors, avant de répondre à Aimé, on va accueillir Jules de Bukavu et Alex est à Kananga. Jules, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Jules.
Oui, moi, je voudrais adresser une question à l'intervenant concernant les étudiants qui... Les étudiants finalistes du premier cycle.
Oui.
Oui, je voudrais demander ceci. Quant à ce qui concerne les étudiants finalistes du premier cycle qui sont allés jusqu'à la deuxième session, alors il arrive que les étudiants soient surchargés tout en préparant les cours, mais aussi les TFC. Alors, je voudrais demander quelle est la méthode que l'étudiant peut utiliser pour qu'il puisse finir au même moment que les autres à la deuxième session, alors.
D'accord. L'étudiant prépare la deuxième session et il a également son travail des fins des cycles à préparer. Donc, il se retrouve en train de préparer 2 choses. Alors, comment s'y prendre? D'accord. Merci, Alex. Vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour. Bonjour,
Capitaine. Quelle est votre question, Alex?
Oui, quel est l'endroit précis, favorable, disons, que l'étudiant peut donc choisir pour bien assimiler la matière, puisqu'il y a les autres qui vont, par exemple, dans le site de l'université, d'autres à la maison, d'autres dans des bourses pour bien assimiler leur matière. Quel est l'endroit favorable, vraiment?
D'accord, merci. Revenons d'abord à la question de Frédéric, qui disait, il parlait des étudiants affairistes, hommes d'affaires, qui cherchent l'argent où l'enfant est malade, pendant qu'il faut, alors que c'est le temps où il faut préparer la deuxième session, mais il a un enfant, des étudiants parents, il a un enfant malade. Alors comment il peut s'y prendre dans ces conditions-là, professeur Célestin?
Quand l'enfant est malade, c'est un cas de force majeure, il faut immédiatement en informer les autorités et obtenir les autorisations nécessaires.
Il ne faut pas venir deux semaines après, la session est terminée, et dire rien qu'avec de, comment dirais-je, de documents médicaux, dire voilà, j'étais retenu. On peut vous comprendre. Mais là, ça demande que le cas soit débattu en conseil des facultés et ça vous prend du temps. Mais quand ça vous arrive dans l'immédiat, il faut vous en référer aux autorités. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de questions que l'on me pose qui sont dues simplement au fait que les étudiants ne connaissent pas suffisamment les dispositions statutaires et réglementaires en rapport avec les examens. Tout cela est décrit dans les documents des universités et je peux témoigner que dans certaines universités que je connais de plus près, les étudiants sont amenés chaque année à acheter le programme de cours dans lequel tout est décrit sur les conditions de passation, les conditions de dérogation, les conditions de telle ou telle toutes ces situations sont décrites.
Mmh.
Il faut toujours vous en référer à l'autorité. Avant, on m'avait demandé combien d'heures faut-il étudier. Ça dépend. Mais je prends par exemple le cas de la période de préparation intensive des examens. Il est bon, dans ce que nous appelons notre horaire spécial,
oui,
pour l'examen, de prévoir, par exemple, ce n'est qu'une indication que je donne, hein, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins,
mm-hmm,
prévoir au moins 4 heures d'études dans l'avant-midi et 4 heures dans l'après-midi. En cas de nécessité, on peut tout au plus ajouter une ou deux heures le soir, mais il faut faire en sorte que vous puissiez aller au lit au plus tard à 22 heures. Ce n'est pas parce qu'il y a session qu'il faut passer des nuits blanches. Là, vous perdez de vos aptitudes pour rester éveillé, pour pouvoir comprendre même les questions qu'on va vous poser et pour pouvoir écrire correctement. Alors, quand je parle de 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, peut-être 2 le soir, il faut savoir que le cerveau humain travaille par intermittence. Pendant ces 4 heures-là,
oui,
une fois que vous avez accompli une première séance de 50 minutes, même si vous vous sentez encore en forme, il vaut mieux arrêter pendant à peu près 10 minutes pour faire se reposer le cerveau. Donc, quand vous faites ça, 4 fois d'affilée dans l'avant-midi, 4 fois dans l'après-midi, mm-hmm, peut-être 2 fois le soir,
oui,
vous allez voir que vous allez vous en sortir et vous disposerez de beaucoup de temps parce que les sessions ne sont jamais cumulées avec les cours.
Voilà, il y a Alex qui a demandé quel est l'endroit idéal pour aller étudier. Faut-il aller dans la forêt, à l'université ou dans... Voilà. Quel endroit faut-il aller pour étudier?
L'endroit, ça dépend d'un individu à un autre. Nous déconseillons, au niveau des enseignements, de pouvoir étudier dans votre chambre à coucher. Et surtout en restant assis ou couché dans le lit. Le sommeil peut vous emporter au moment où vous ne vous en rendez même pas compte. Donc, il faut trouver un endroit, une table chez soi ou une table dans une bibliothèque. Pendant la session, les salles de classe ne sont pas occupées. Vous pouvez prendre un coin où vous vous sentez à l'aise, mais il faut que cet endroit soit bien éclairé, que ce soit bien aéré. Le cerveau qui travaille a besoin d'oxygène, a besoin de phosphore. Et même pour l'alimentation, il y a des conseils que l'on donne pour éviter la graisse, pour éviter l'alcool. Il faut éviter l'excès des boissons sucrées, parce que tout cela finit par nuire à la santé, mais l'endroit, ça dépend d'un individu à un autre.
Bien.
Comme les heures.
Mmh. Bien, on va accueillir José Rima, qui nous appelle de Mbandaka. José, bonjour. José, vous êtes à Mbandaka, bonjour. Voilà, José n'est plus en ligne. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de comment bien préparer la deuxième session à l'université avec le professeur Célestin Dimanja. Il est professeur à l'université catholique du Congo. On me fait signe qu'on l'a perdu, la ligne. Voilà, on l'a perdu, il n'est plus en ligne, je ne sais pas pourquoi. Alors, on ne peut plus le joindre, désolé, sûrement. Voilà, on fait signe qu'il est en train de pleuvoir et que c'est peut-être à cause de cela. Bien, ce n'est qu'une partie remise, on va l'accueillir une prochaine fois pour parler de ce thème, comment bien préparer la deuxième session à l'université. Bon, il restait une question, celle des Jules de Bukavu qui disait comment préparer la deuxième session et préparer son TFC au même moment. Bien, ce n'est qu'une partie remise, on va poser cette question prochainement à notre invité.